parfait. Exemplaire, surtout dans cette conviction, mais quand même, elle dit certainement quelque chose de très très juste. C'est-à-dire, c'est moi qui. Or, la singularité dont il s'agit dans l'identité, l'identité, ce n'est pas être le même que soi-même, c'est une singularité ponctuelle, et dans l'idée, le point à quoi tout peut se rattacher étant bien, étant mon expérience, cette singularité, elle n'est nulle part. Et elle n'est nulle part, elle n'est pas non plus un corps subtil, étranger, tout à fait.
Est-ce que les médecins sont d'accord? Est-ce que ce qui compte, finalement, c'est ce sentiment de singularité? Je suis unique, donc je suis fabriqué de ce que je suis fabriqué, mais je suis unique, donc je suis moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. On ne sait jamais qui on est.
C'est ça l'illusion.
Ça veut juste dire, nul n'est pareil à moi. Alors,
définissez-moi l'idée dans l'identité, parce que la philosophie, ok, il y a une identité sociale, une identité matérielle, il y a fixéité. Oui. On peut pas de recherche, c'est là, la même thé, la même thé, la même thé.
Oui,
c'est ça. Je ne
suis
pas capable de faire cette distinction. Donc,
non, mais ça, j'ai raconté à Philippe la dimension philosophico-psychologique, si vous voulez, de l'identité, le ressenti. Est-ce qu'on est le même? Est-ce qu'on se ressent le même? Est-ce qu'on continue d'être le même avec l'opération de ce type?
Voilà, c'est que l'identité évolue.
C'est vrai, bien sûr.
Oui, d'accord.
Je vais faire un parallèle, d'ailleurs.
Elle n'est pas individuelle, si vous voulez. J'ai compris, elle évolue.
Comme vous avez dit tout à l'heure, bah, vous avez repris, si vous avez
l'exemple, je prenais l'autre fiction, c'est plus difficile. L'identité, elle est aussi à l'intérieur d'une culture. Et donc, là, on est tous d'accord, au moins, pour dire que notre culture accorde au cœur une certaine position symbolique. Mais évidemment, il n'y a rien dans le cœur qui le destine à être l'organe des sentiments. D'ailleurs, à propos des greffés du cœur, il y a une petite chose qui a existé peu après que j'ai été greffé, une personne n'en a plus jamais parlé, on m'a dit, les médecins m'ont dit, il y avait des infirmières canadiennes qui avaient entrepris une recherche sur les émotions des greffés. Puisque logiquement, un cœur greffé étant démerdé, à moins que les nerfs repoussent ce qui arrive, paraît-il, qu'on peut constater que le post-mortem, les messages nerveux dont le cœur a besoin lui parviennent par le sang. Alors, je dis ça très grossièrement parce que c'est ce qu'on m'a expliqué à ce moment, que le cœur est dégagé. On va à personne la dire.
Non, c'est pas moi qui l'ai
dit. Enfin, la question était posée, mais je vous dis, il y a 20 ans, hein, la question avait été posée. Quelles sont est-ce que les émotions d'un greffé sont non pas sont pas les mêmes, mais est-ce qu'elles lui arrivent plus lentement? On peut mesurer le temps entre, voilà, je vois la fille, je tombe amoureux, combien de temps? Ou je vois le mec, je viens en colère, combien de temps? À combien de fois aussi je vais chercher à chaque fois combien de temps? Eh bien, je crois que moi, parce que j'ai pu expérimenter sur moi-même, j'ai aucune.
Si vous voulez, il y a des éléments de réponse assez simples. Dans la chirurgie cardiaque, jusqu'à il y a à peu près 10-15 ans, il y a eu un geste qu'on pratiquait assez fréquemment lorsqu'on faisait un pontage coronarien, on faisait ce qu'on appelle une plexectomie, qui avait des vertus non vérifiables.
Vous savez ce que c'est une plexectomie, bien
sûr. Je vais vous expliquer ce que c'est, on enlevait. Dans la concavité de la horte, hein, qui est le tuyau qui sort du cœur, il y a un plexus nerveux qui gère un petit peu toutes les commandes nerveuses du cœur. Et on enlevait ce plexus parce que ça avait l'immense avantage de supprimer les douleurs d'origine cardiaque. L'angine de poitrine, par exemple, lorsqu'on avait une plexectomie, n'a théoriquement plus de possibilité. Puis on s'est arrêté de faire ce geste, mais parmi les millions de malades qu'on a opérés en faisant ce geste-là, on n'a jamais eu l'impression que leur sentiment ou leur fonctionnement était perturbé. Par contre, il y a une autre question qui se pose. Est-ce que le fait de subir une grosse opération comme une transplantation cardiaque ou comme une grosse opération ailleurs, ça transforme votre façon de voir les choses. Et ça, c'est sûrement un peu vrai.
D'abord, ça opère une transformation extrêmement profonde et de se dire, dans quelques mois, j'étais mort et maintenant, je vis encore un peu. Et en plus, je me disais un peu, j'espérais 10 ans, quand je suis arrivé à 10 ans, j'ai même éprouvé une sorte de coup d'inquiétude. Là, la fin est proche. Maintenant, j'ai passé 20 ans, maintenant 30 ans. Moi, j'espère. En sachant beaucoup le rapport, par exemple, moi je sais que j'ai en quelque sorte deux âges maintenant. J'ai mon âge, 72 ans, et je ne dis pas que j'ai 52, mon cœur a à peu près 20 ans moins, mais je ne suis pas vraiment passé par l'épreuve du vieillissement, puisque je n'ai jamais eu vraiment, naturellement, 60 ans, ou 65, un âge auquel on peut dire, ah, dis donc, tu commences à plus. Non, j'ai pas eu ça. Donc, c'est une espèce de double vitesse. Bien sûr que ça change beaucoup le comportement.
Je me souviens très bien, je me souviens très bien de vous avoir vu avant les rêves. Et moi, j'ai un élément de référence qui est très simple, c'est l'âge de votre fils. Ce que je l'ai vu à l'époque, et c'était un gamin. Petit, hein,
5 ans, 5 ans. Vous l'avez autorisé à venir à mettre sur la cour quand j'étais encore argent.
Donc pour moi, j'ai cet élément-là, et évidemment ça a changé votre vision des choses, d'avoir pu voir vous grandir votre fils de cours adulte, c'est absolument gigantesque dans la vie d'un homme, évidemment. Donc ça, je pense que ça modifie le comportement d'un opéré, alors que finalement, lorsque vous voyez des malades qui ont 70-80 ans, qui ont deux fistards artificiels, qui ont deux prothèses de hanche, deux prothèses de genou, ils s'en foutent. Ils marchent pour la ligne. Ils n'ont pas de problème d'identité. Je ne crois pas. Hein, enfin, ça m'étonnerait.
C'est pour ça qu'il y a une chose que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout quand il arrive au médecin de ces derniers temps. Mais je ne leur fais pas de reproche parce que c'est le temps. Vraiment, toute l'équipe de Strasbourg, parfait. Mais j'aime pas qu'on me dise, à propos de tel ou tel petit truc, mais monsieur Nancy, vous avez quand même votre âge. Ah, je dis non, parce que vous me racontez. Moi, je suis créé, parlons de 22 ans, je ne parle pas de 60 ans. On a juste ajouté quelque chose à quoi vous pensez avec les changements de technique chirurgicale. La technique que vous avez employée quand vous m'avez greffé, vous savez très bien, c'est une technique qui a été remplacée maintenant par une autre. Cette technique faisait que vous laissiez un morceau d'une oreillette du cœur d'origine. J'ai créé cette technique, maintenant abandonnée. Il ne reste plus rien du tout. Donc les greffés, jusqu'à une certaine date, les greffés du cœur, sont des gens qui, comme moi, ont un cœur venu d'un autre et un morceau de leur propre cœur. Alors là, et on pourrait.
C'est double cœur, hein, les gens qui s'intéressent à l'informatique, ça se fait.
En revanche, ça fait une situation particulière, d'ailleurs, je sais, c'est souvent arrivé de dire, et moi, il y a des médecins qui n'étaient pas au courant, de leur dire, si vous m'auscultez, vous allez entendre un battement de plus qui vient de là.
Je vais être à la ordonnance et ensuite je proposerai de prendre la parole.
Je vais juste ajouter un petit point, parce que là, on s'est beaucoup centré sur la personne et l'individu. Pour vous dire pourquoi les pouvoirs publics français avaient maintenu la règle très stricte de l'anonymat entre le donneur et le receveur. Dans notre loi, il est écrit le donneur ne peut jamais connaître, enfin, la famille du donneur, pardon, ne peut jamais connaître l'identité du receveur, ni le receveur l'identité du donneur. Et ça a été maintenu en 2011. Et cette règle en 2011, elle a été questionnée, puisque vous avez des pays où c'est différent. Alors, aux États-Unis, par exemple, on peut connaître son donneur, et il y a des émissions de télévision qui sont régulièrement organisées autour d'une famille qui a perdu un proche, et on fait venir tous les receveurs qui ont pu survivre grâce à ce don généreux. Et chez nous, ça ne se fait pas. Et quand les députés ont réfléchi, les sénateurs, ils se sont demandé si c'était bien ou si c'était pas bien. Donc ils se sont posé les questions que vous vous posez aujourd'hui par rapport à l'individu, à son ressenti, à sa construction intime et à son vécu. Ils se sont aussi posé des questions de société qu'en France, on n'a pas beaucoup connu, mais que certains pays, comme par exemple l'Afrique du Sud, ont connu et qui sont redoutables, qui sont par exemple, parle d'identité, est-ce que moi je suis noire et j'accepte d'avoir le cœur d'un blanc, est-ce que moi je suis un homme et j'accepte d'avoir le cœur d'une femme? Et ces sujets-là, notamment entre les ethnies différentes, les parties d'une société très différente dans certains pays, l'arrêt de l'anonymat nous en a tranché. Alors que dans d'autres pays, vous avez des gens qui disent « Moi, je viens d'honneur, mais ça ne fait pas pour, je veux donner à quelqu'un qui est comme moi, ou alors je veux donner à quelqu'un de bien. » Ou alors, je ne vais pas recevoir le cœur de quelqu'un qui a pris une balle parce que dans un règlement de compte entre truands, il est mort. Et ces débats-là, qui ne sont pas simples, notre règle très ferme de l'anonymat nous permet d'y échapper et de dire finalement le don d'organes, c'est un geste porté par la société, de générosité, et c'est un geste de l'espèce humaine. C'est pas le geste une partie de l'espèce pour une autre, c'est l'espace. Voilà. C'est comme ça que le législateur français a voulu maintenir cette règle.
Alors moi, si je peux me permettre d'intervenir, parce que Emmanuel a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, puisqu'on est dans un forum biologique, et là, elle a absolument raison, cette notion d'anonymat, il nous faut absolument la conserver, la préserver, parce que ça peut poser des tas de problèmes. Elle a abordé la question des chantages financiers, moraux et autres qui existent aux États-Unis, notamment, mais pas qu'aux États-Unis. C'est pas si simple que ça. Donc, il y a vraiment un vrai problème de ce côté-là. La seule difficulté, c'est que quand on attaque une première, on parlait du trieur, le premier greffé de cœur à Marseille, quand le premier greffé d'une marche, puisqu'on parlait tout à l'heure, on avait fait un cadavre. Le premier greffé du genou, la première greffé de visage. Pour un greffé de visage, on s'est très bien entendu avec Bernard de Rochelle. On a dû revoir un système de communication parce que moi je payais ce que j'avais vécu pour la première greffe de main. Mais il y a une histoire de communication qui fait que obligatoirement, la famille du donneur sait ce qui s'est passé. Et là, il faut venir les prendre en charge, et nous on a mis au point un système de soutien psychologique pour les familles du donneur qui obligatoirement s'aperçoivent de ce qui se passe.
Qui balance pratique et puis on va vous donner la parole.